France Inter.
Journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, Vade Retro Satanas, on parle de TikTok. La menace d'interdiction se précise aux États-Unis. Le vote du Sénat très attendu aujourd'hui. Alors que l'Europe s'attaque à la nouvelle version du réseau social chinois TikTok Lite, sans doute suspendu dès jeudi. Détail dans un instant. Des menaces de mort pour une agression imaginaire. Un homme jugé aujourd'hui, il avait menacé le proviseur du lycée Ravel à Paris, qui a dû quitter ses fonctions depuis. Il avait simplement demandé à une élève de retirer son voile. La une ce matin, c'est aussi cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement va s'en charger pour durcir les règles applicables dès cet été. Les universités en Argentine au bord de la fermeture, plus assez d'argent pour les faire tourner, rallumer le chauffage ou se geler, la question de cette fin avril. Et puis Marcus Thuram, champion d'Italie, avec l'Inter Milan.
France Inter.
TikTok est-il le cheval de Troie de la Chine auprès des jeunes du monde entier? L'application, consultée par 1,5 milliard d'utilisateurs, rend l'Occident de plus en plus méfiant, accusé de manipuler la jeunesse, de l'espionner, de la rendre accro à ses vidéos qui défilent à l'infini. L'Europe, comme les États-Unis, veulent poser des limites. Décision prise hier à Bruxelles, une autre attendue aujourd'hui à Washington. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Florence.
On commence par les États-Unis où le Sénat, dans la foulée de la Chambre des représentants, s'apprête à voter la possible interdiction du réseau.
Oui, le texte prévoit un retrait pur et simple des magasins d'applications, à moins que la version utilisée aux États-Unis ne rompe ses liens avec la Chine et ne passe sous pavillon américain d'ici à peu près un an. Embarquée dans un paquet de lois internationales, dont celle sur l'aide à l'Ukraine, la mesure a plus de chances de passer que les fois précédentes. Joe Biden a déjà dit qu'il était prêt à la promulguer. Reste à trouver un acheteur. Se payer TikTok va coûter cher. En 2020, la maison mère avait estimé le prix d'une revente à 60 milliards de dollars. Ce serait probablement plus aujourd'hui. TikTok, qui devrait de son côté multiplier les recours face à ce que Pékin qualifie de méthode de voyous, une vraie guerre des applis. La Chine a interdit ces jours-ci plusieurs grands réseaux américains, dont WhatsApp, au nom, je cite, de la sécurité nationale.
Et en Europe, Xavier, c'est le nouveau venu, TikTok Lite, qui pourrait être banni dès jeudi. On en parlait ici même avec vous il y a 10 jours. TikTok Lite, c'est la version qui récompense le temps passé sur l'appli avec des bons d'achat Amazon.
TikTok Lite, aussi toxique que des cigarettes light, tacle le commissaire Thierry Breton, qui note l'arrivée en catimini de l'application en France et en Espagne au mépris des règles européennes. D'autant que son mécanisme, dit-il, pose des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs. La commission a donc ouvert une enquête, la deuxième qui vise TikTok. Le réseau a jusqu'à demain soir pour apporter les preuves d'une évaluation des risques. Il s'est contenté jusqu'ici de rappeler l'interdiction aux mineurs et la limite quotidienne de cette rémunération. Bruxelles menace, en plus de sanctions financières, donc d'une suspension, avec derrière un enjeu de taille, montrer que sa façon de faire est la bonne, réguler, faire entrer les géants numériques dans le rang plutôt que de les bannir définitivement.
Xavier Demani, phare de la rédaction numérique de France Inter. Lui avait proféré ses menaces sur le réseau X, un jeune homme jugé aujourd'hui pour avoir appelé à tuer le proviseur du lycée Ravel à Paris. L'affaire a suscité un grand malaise le mois dernier, au moment où le proviseur a quitté ses fonctions, menacé pour avoir demandé à une élève de retirer son voile. Elle l'avait accusé de violence. Plainte classée sans suite, mais la rumeur s'était propagée dans le lycée et à l'extérieur. L'homme jugé aujourd'hui est le frère d'une autre élève de l'établissement. Impardonnable pour Francis Leck, l'avocat du proviseur.
Il a indiqué qu'il s'excusait. Pour nous, la partie civile, c'est un peu léger, dans la mesure où ce personnage est âgé de 26 ans, qu'il a quand même un niveau de master, et qu'il prétend pouvoir proposer ses services dans le cadre de l'informatique. Et donc il connaît parfaitement le fonctionnement des réseaux sociaux, leur importance, et par conséquent, quand il vient lancer des menaces de mort, à savoir il faut le brûler, ce chien, alors qu'il n'a même pas vérifié si ces violences à l'égard de l'élève avaient existé, eh bien c'est quelque chose que nous considérons comme gravissime. Le processus qui s'est passé dans l'affaire Ravel est identique quasiment à celui qui s'est passé avec l'affaire Samuel Paty.
Francis Leck, avocat du proviseur du lycée Ravel, joint par Sarah Guibaudeau, deux autres auteurs présumés de menaces contre le proviseur ont été identifiés. Que s'est-il passé hier à Biscarrosse, au petit matin, dans cette aire de passage pour les gens du voyage, où le chanteur Kenji Girac a été blessé par balle au thorax? Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Lui parle d'un accident en manipulant une arme.
Il est 8h06, rien à négocier. C'est le gouvernement qui décidera des nouvelles conditions d'indemnisation des chômeurs.
Par décret, donc sans les partenaires sociaux, pour une application à partir du 1er juillet prochain. Les nouvelles règles seront plus dures pour aboutir au plein emploi et accessoirement faire des économies. C'est la philosophie du gouvernement qui inquiète ces deux chômeuses que vous avez contactées, Willy Moreau.
Après un licenciement économique il y a un an et demi, Farida, 31 ans, ex-commerciale basée à Marseille, est aujourd'hui au chômage.
Je touche un chômage de 1400 euros.
Très agacée par les discours qui pointent du doigt les chômeurs.
On ne vit pas avec 1400 euros. Maintenir un espèce d'imaginaire collectif du chômeur qui fout rien, qui attend juste de toucher les allocations et puis qui utilise l'argent des allocations pour se payer des abonnements Netflix me semble complètement absurde.
Gabriel Attal a évoqué trois leviers possibles, la durée de l'allocation, son montant et le nombre d'heures travaillées pour la toucher. Mais Camille, pâtissière au chômage, ne comprendrait pas un nouveau durcissement.
La règle actuelle, elle t'encourage à trouver du boulot parce que les conseillers Pôle emploi déjà te proposent des formations. Et puis parfois, il faut prendre du temps aussi sans travailler pour préparer son avenir. Voilà, moi je voudrais passer mon permis par exemple.
Le chômage n'est pas que du temps perdu, renchérit Farida. Elle s'est beaucoup agacée il y a un mois quand Gabriel Attal a évoqué une durée d'allocation réduite à un an.
En sachant que certaines formations pour vraiment être efficaces dans les secteurs visés peuvent durer un an ou plus, je comprends pas.
Pour Farida, il faut davantage de moyens dans l'accompagnement professionnel. C'est d'ailleurs dans cette voie qu'elle se reconvertit. Elle a postulé pour être conseillère chez France Travail.
Willy Moreau, en Argentine, on ne plaisante plus du tout avec l'argent public. Depuis l'élection de l'économiste ultralibéral et d'extrême droite Javier Milei, à la tête d'un pays surendetté à l'inflation démentielle, il s'est félicité ce matin d'un premier trimestre excédentaire. Pour la première fois depuis 16 ans, le pays a gagné plus qu'il a dépensé au prix de coupures, de coupes drastiques, fermetures d'administration, fonctionnaires licenciés ou encore universités au régime sec. Les recteurs annoncent qu'ils n'auront plus de quoi les faire fonctionner à partir du mois de mai. Reportage à Buenos Aires, signé Caroline Vic.
En plein centre-ville, Azul Almeida, professeur d'embryologie à la faculté de médecine, donne son cours sur le trottoir.
Normalement, on donne cours au 10e étage, mais il n'y a pas d'ascenseur. En plus, on n'est pas payé, on travaille ad honorem. Ça me rend triste pour la faculté, mais je continue à travailler par amour pour la médecine et pour la matière que j'enseigne.
Le président Milei a décidé de verser aux facultés la même somme que l'année dernière, sans prendre en compte donc l'inflation annuelle de près de 270%. Pour fonctionner normalement, les universités auraient donc besoin d'un chèque 3,5 fois plus élevé. Et aujourd'hui, les facultés agonisent, au grand regret Alejandro Martinez, doyen de l'université d'ingénieurs, joint par téléphone.
L'université de Buenos Aires est le deuxième consommateur d'électricité de la ville. Et à ce rythme-là, notre quotidien est en train d'arriver à sa fin. Plus le temps passe et plus on se dit « mais on va vraiment devoir fermer ?» C'est en train de se transformer en quelque chose d'inimaginable. Ce serait de la science-fiction de fermer les universités.
Les doyens et les recteurs seront aujourd'hui aux côtés des étudiants lors d'une grande mobilisation pour défendre l'université publique qui, faute de moyens, pourrait fermer ses portes dès le semestre prochain. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
La province du Guangdong en alerte rouge aux inondations dans le sud de la Chine. Elles sont déjà dramatiques depuis jeudi dans cette région la plus peuplée et qui compte des dizaines de milliers d'usines. Les autorités sont très inquiètes pour la ville de Shenzhen, presque 18 millions d'habitants. En Angleterre, des charters sont déjà réservés. Londres, Kigali, destination le Rwanda pour des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni, ceux qui traversent la Manche sur des canots pneumatiques notamment. Le Parlement britannique a adopté le projet cette nuit, après deux ans de polémiques et de contestations. Soigner ou escroquer, l'assurance maladie a tranché pour 10 centres dentaires du réseau Nobel Santé Plus. C'est une information France Inter. Ces centres d'Île-de-France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine seront déconventionnés, ce qui veut dire que les patients qui les fréquentent ne seront plus remboursés pour cause de fausses facturations et de soins inutiles. Plus question de laisser la santé privée siphonner l'argent de la Sécu, dit le directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fatome, qui compte 31 centres débusqués depuis un peu plus d'un an.
Cette nouvelle vague de déconventionnement s'inscrit dans une stratégie de renforcement et d'accélération de la lutte contre la fraude à l'assurance maladie. On constate que dans cette dynamique d'installation des centres de santé, eh bien, il y a manifestement un certain nombre de gestionnaires qui ne sont pas là d'abord pour prendre en charge des patients, mais pour organiser de manière assez systématique des pratiques frauduleuses. Là où on est plus efficace aujourd'hui, c'est que quand on déconventionne, on arrête le flux de remboursement. Et donc au moins, quelque part, le signal qu'on adresse au centre et le signal que je vais adresser à l'ensemble des assurés, c'est que finalement les financements de l'assurance maladie ne vont plus servir à financer des pratiques frauduleuses de ces centres de santé.
Voilà le directeur général de l'assurance maladie avec Victor Dolande. Dans les transports, la galère des usagers de l'A13 va se prolonger au moins jusqu'au 1er mai. L'autoroute est fermée aux portes de Paris à cause de fissures inquiétantes. Et puis un jeudi noir se profile dans l'aérien. 75% des vols annulés à Orly, jusqu'à 50% dans les aéroports de province. Les contrôleurs aériens sont appelés à la grève après l'échec de négociations sur la réorganisation de leur travail. C'est l'un des 50 sites les plus émetteurs de CO2 en France. Le cimentier Echium, dans le Pas-de-Calais, s'apprête à exporter, enfin a le projet d'exporter son dioxyde de carbone au large de la Norvège via une plateforme basée à Dunkerque. C'est un projet ambitieux baptisé D'Artagnan. Explication in situ, Delphine Simon.
Dans ces fours, chauffés à 900 degrés, le calcaire produit du CO2. Éric Borassino, le directeur de l'usine de chaux.
Une tonne de chaux émet une tonne de CO2. Deux tiers ne sont pas évitables parce que directement liés à la cuisson du calcaire.
Pour réduire son empreinte carbone, l'industriel utilise déjà la biomasse, mais la fabrication elle-même dégage un CO2 impossible à neutraliser. La solution, le capturer.
On va remplacer la cheminée actuelle par une énorme conduite sur laquelle on va brancher un ventilateur qui va aspirer les gaz et les transférer vers la nouvelle installation Cryocap.
Les investissements sont extrêmement lourds mais indispensables pour Jacques Chanteclerc qui dirige le groupe Loast.
Sans la chaux, vous n'avez pas d'eau potable à la sortie de votre robinet. Donc nos clients sont par exemple Veolia, Suez, sachant que pour nous la décarbonation, c'est vraiment une question existentielle.
Objectif, acheminer par bateau le CO2, puis le stocker dans d'anciens gisements pétroliers ou gaziers en mer du Nord. La technique a fait ses preuves, explique Olivier Hurtin, l'exploitant du futur terminal de Dunkerque.
Ça fait des dizaines d'années que l'industrie pétrolière est capable d'enlever le CO2 dans le gaz. Et ce sera une première en France.
Capter le CO2 a peut-être du sens pour décarboner la chaux et le ciment, mais pour le réseau Action Climat, à grande échelle, ce n'est pas la solution miracle pour le climat.
Delphine Simon, à ce stade, le lancement de la capture de CO2 est prévu en 2028. 1 degré à Bourg-Saint-Maurice, 3 à Limoges, 4 à Reims. Mais où est donc passé le printemps et la douceur des températures? Et faut-il ou non rallumer le chauffage? Question pas de saison, mais bien d'actualité, surtout quand on vit dans un immeuble. Laurent Kramer avec du chauffage collectif.
Actuellement, besoin de chauffage, vraiment, vraiment, sincèrement.
Patrick est catégorique.
Nécessaire, indispensable. Là, le chauffage est prévu jusqu'à la mi-mai.
Et devant la levée de bouclier des copropriétaires de sa résidence, le chauffage collectif vient d'être prolongé.
Je pense que c'est rare, je pense que c'est exceptionnel.
De son côté, Kelly a coupé le chauffage de son pavillon, c'était en mars. Le relancer fin avril n'est pas raisonnable.
J'ai hésité, mais oui, j'aimerais bien, mais financièrement, non. Puis c'est pas, on n'est pas habitué, quoi. Enfin, fin avril, de mettre le chauffage. Donc je me mets plein de couettes.
Et pour résister aux températures les plus fraîches, Christine, elle s'est fixé un cap.
On met 18 dans la maison. Il ne démarre que si on descend à 16. Et donc ça va, la maison est bien isolée.
Direction maintenant, une copropriété. Quand le chauffage collectif s'arrête, mieux vaut prendre ses précautions.
Alors moi, oui, j'ai le chauffage collectif et un poêle à bois.
Solution radicale pour Sabine Amedon, qui a donc installé un poêle à bois pour résister dans son appartement au frimas de la saison.
Avant, j'avais un radiateur à bain d'huile au cas où, comme la plupart des copropriétaires. Au moins, j'ai la possibilité de réchauffer mon appartement de manière complètement indépendante. J'ai mon poêle à bois qui chauffe l'appartement.
Car relancer pour quelques jours seulement un chauffage collectif qui vient d'être arrêté est souvent beaucoup plus long et plus cher pour une copropriété que les quelques jours de froid à passer.
Laurent Kramer, champion du foot italien, l'Inter Milan, sacré pour la 20e fois hier soir après sa victoire sur son grand rival local, l'AC Milan. Et grâce à Marcus Thuram, décisif avec son 12e but de la saison. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Vous êtes à Rome, correspondant de France Inter. Ce Thuram-là, Bruno, deuxième du nom, est désormais considéré comme l'un des meilleurs attaquants étrangers de l'histoire du club.
Et après la victoire, Marcus a piqué le poteau de corner du Stade de Milan et y a glissé son maillot de l'Inter. Presque un porte-drapeau en fait de l'équipe, moins d'un an après son arrivée en Italie. Le tout sous les yeux de son père en tribune hier soir. C'est la meilleure recrue de l'année, écrit la presse italienne. Attaquant rapide et enthousiaste, ici on le compare au Camerounais Samuel Eto'o, lui aussi passé par l'Inter. Marcus, qui doit son prénom à un leader noir jamaïcain, est champion en Italie une vingtaine d'années après son père. D'ailleurs, il est né et a vécu enfant à Parme quand Lilian y jouait avant d'être transféré à la Juventus. Le gamin a maintenant 26 ans, il mesure 1m92. Entre-temps, il est passé par Sochaux, Guingamp, l'Allemagne, où son seul accident de parcours fut un crachat sur un adversaire en plein Covid. Il est en équipe de France depuis presque 4 ans maintenant. Après le Mondial au Qatar, le frère de Kefren, Thuram, encore un footeux de la famille, attend maintenant sa sélection pour l'Euro. Hier soir, Marcus a remercié Thierry Henry, dont il est très proche. C'est mon meilleur oncle, dit-il. Avec Thuram le jeune, l'histoire du foot français continue.
Quelle dynastie! Merci Bruno Duvic, correspondant de France Inter à Rome.
Merci Florence Paracuello. C'est une autre famille qui part en tournée. Le chanteur Alain Souchon et ses fils Pierre et Ours seront les invités de Léa Salamé à 9h20. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Il a gelé plus fort ce matin, Marie.
Oui, Nicolas, c'est descendu à moins 5. En Haute-Marne, vous avez moins 4 à Doncourt, les Conflans, Meurthe-et-Moselle, moins 3 au Buisson, moins 1 à Évreux-Bergerac. Seulement 0 à Millau, 1 à Lille, 3 à Paris, 6 à Nice, mais 10 à Ouessant. Et côté ciel, le soleil est au rendez-vous sur les régions du centre, du nord au sud, alors qu'à l'ouest, l'anticyclone est une petite faiblesse et a laissé passer la dépression britannique et des pluies arrosent dès ce matin la Bretagne et la région Havre-Mans, mais aussi de la Gironde au Pays Basque, aux Pyrénées, où il neige. Et puis à l'est, on a toujours cette instabilité qui donne des averses, mais aussi de la neige à très basse altitude, du Jura au Massif central, aux Alpes, à la Corse, où il neige également et des orages éclatent.
Et ce temps instable continue cet après-midi.
Oui, et même les jours suivants, donnant donc des averses à l'est et de la neige, des Alpes au Massif central, au relief Corse, où il y aura toujours des orages. Le vent va souffler assez fort de la vallée du Rhône au golfe du Lion, toujours des pluies, de la neige sur les Pyrénées. Et puis sur le nord, la dépression va gagner les pays de la Loire au Hauts-de-France, avec plus de cumulus sur les régions centrales, sous des valeurs toujours bien basses pour la saison, pas plus de 3 fonds au Meuse, 6 sur le plateau de Hauteville dans l'Ain. Vous n'aurez que 9 à Guéret, 10 au Havre, 11 à Lyon, 12 à Paris et au Mans, 14 à Ajaccio comme à Brest. Et en se rappelant, Nicolas, qu'à la Saint-Georges, l'épi est dans la gorge. Et oui, débutent aujourd'hui les saints chevaliers. Vous savez, Rabelais, dans Pantagruel, les cite comme des saints grêleurs, geleurs, gâteurs de bourgeons.
Merci Marie-Pierre Planchon. 8h18.